Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, les Orech Yamim Tovim Vishanim Naimim. Nous allons analyser, Be'ezrat Hachem, la problématique, le sujet de Parashat Para. En effet, le Shabbat à venir, et il y a la Parashat de la semaine, plus Parashat Para, c'est la troisième Parashat des quatre Parashiot qui précèdent Pesach, qui font le trait d'union entre, d'une part, Pourim et Pessah. Il y a avant Pourim, avant Rosh Chodesh, ou le jour de Rosh Chodesh, le Shabbat du Rosh Chodesh Adar, il y a Parashat Shkalim, qui prépare Nissan. Puis, le Shabbat qui précède Pourim, il y a Parashat Zachor. Puis, la Parasha qui vient après Pourim, c'est celle qui est Parashat Para, qui prépare la pureté, la préparation au sacrifice de Korban Pessah. Et ensuite, il y a Parashat Ahodesh. Donc, nous sommes dans Parashat Para, qui fait référence à la vache rousse. Alors, à ce sujet, Ezrenu Beshem Adonai Yosei Shalom Ibares. À ce sujet, nos maîtres disent, ils font une parabole. Ils disent, qu'est-ce que c'est que la vache rousse? Le processus de purification de la vache rousse. Alors ils disent, un fils de roi a souillé une des pièces du palais royal. Alors le roi, il demande à la mère de ce prince qu'elle vienne nettoyer les salissures que son fils a causées. Et cette parabole, elle est mentionnée dans les Midrashim, en particulier Midrash Rabba dans Parashat Bamidbar, au chapitre 19:8. Donc, cette parabole elle-même suscite les questions. Cet enseignement mérite notre attention. L'exemple ne correspond pas à la réalité. En effet, qu'est-ce que la vache rousse est considérée comme étant la mère du veau d'or? En quoi la vache rousse a une responsabilité sur la réalité, le fait qu'ils ont fait, les Bnei Israël dans le désert, ont fait le veau d'or. De plus, il s'agit de comprendre en quoi ce processus-là de purification et tout ce qu'il entraîne, il y a des Mishnayot, des Gemarot, des Sugyot, c'est très compliqué, très complexe, et c'est divers, il y a beaucoup de sujets qui se mêlent sur le système, le processus de purification de la vache, de Para Adouma. Et alors, en quoi ce processus-là va réparer les dégâts causés par la faute du veau d'or? Alors, en premier lieu, nous devons définir la réalité, c'est que nous devons définir et comprendre la faute. Quelle est la faute du veau d'or? Et cette faute-là nous suscite énormément de questions. Alors, nous savons tous que, au moment où ils ont fait le Hegel, ils étaient juste après, dans les 40 jours qui suivent, la Kabbalat HaTorah. Donc ils ont atteint un niveau spirituel, prophétique, et extrême, suprême, les sommets les plus hauts ils ont atteint. Ils ont dit « Na'aseh v'nishma ». Et ça c'est une formule qui est employée par les anges. De plus, ils ont vu lors du Mahamad Arsinaï que Akadosh Baruch Hu leur a parlé directement. Ils ont vu ce qui était dit et ils ont entendu ce qui est visible. Donc c'est des niveaux spirituels énormes. Alors comment se peut-il que un tel acte soit attribué à ces personnages qui sont d'une dimension qu'on n'arrive même pas à imaginer le niveau spirituel auquel qu'ils ont atteint à ce moment-là. Alors ils vont faire le veau d'or. Et le veau d'or va être qualifié de faute, de trahison, de profanation, etc., quelque chose de minable. Comment peut-il avoir fait une chose pareille? Et nos maîtres dans la Gemara disent, à cause de cette question-là, ils sont étonnés de la faute. Que disent-ils? L'Oyore Israël Rohim le Otomase. Ils ne méritaient pas, en vérité, selon leur degré, ils ne sciaient pas, ils ne convenaient pas, ils ne leur convenaient pas d'agir de la sorte. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Alors, dit, il en fait pour nous apprendre, de là, on apprend le repentir quand il s'agit d'une communauté. L'ilmod, les orot, tchouva l'arabim. Donc, la réparation, on aurait pu penser que si une communauté entière ou le peuple entier dans sa globalité faute, que c'est irréparable. Et là, on apprend de la faute du vaudeur que oui, on peut réparer. On dit, quel est Israël, il va apprendre ce qu'on fait Israël lors de la faute du vaudeur. Ça, c'est ce que dit l'Agmara dans Avodah Zara à la page 4b. Alors, si on analyse maintenant cet enseignement, est-ce à dire qu'ils fautent sans conscience? C'est-à-dire que, ou bien c'est malgré eux qu'ils agissent. Est-ce que la faute leur a été imposée? Ça dépend pas d'eux. Est-ce que Akash Bokhu les a mis, les a obligés à fauter? Voilà que bien que la destinée des êtres est fixée, Akol minashamayim, mais la crainte d'Akadosh Baruch Hu ne dépend que de la volonté des hommes. Akadosh Baruch Hu n'impose pas sa crainte sur les hommes. Il veut que les gens de leur libre choix, décident d'eux-mêmes de le craindre. C'est la raison d'être de faire du libre arbitre. Donc Akol minashamayim, chos mirat shamayim. Et là, ils ont choisi a priori de ne pas craindre Dieu. De plus, Il y a lieu d'ajouter que si cet acte est imposé, indépendant, il les dépasse, alors pourquoi il a suscité la colère divine? Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ani Halim wa Chalem, et lâche-moi, et je vais les examiner. Il dit, le Tehillim, c'est marqué plus. Il est marqué Akadosh Baruch Hu projeta de les exterminer à tout jamais, de les faire disparaître. Loulé Moshe Behiro, s'il n'y avait eu la prière de Moshe, alors ils auraient été éliminés. Alors comment on comprend ça? Vegan, il dit comme ça, il dit, Amar le Hashmidam, Loulé Moshe Behiro, Amad Baperet Sefanab. Moshe Rabbeinu, il s'est tenu dans la brèche et il est intervenu. Ça veut dire que sinon, ils auraient été exterminés. Alors, mais comment c'est possible, voilà, qu'ils n'ont pas fait la faute de manière a priori volontaire? Et bien plus encore, comment on peut apprendre le din de tchouva de là-bas? C'est la tchouva, elle s'applique à tous les cas. Ça s'applique le cas volontaire, le cas involontaire. Dans tous les cas, si un public faute de manière volontaire, avec conscience, il se rebelle contre Hachem, il peut malgré tout faire tchouva. Mais si la faute due à Hegel, elle était involontaire ou imposée ou sans conscience totale, alors on peut pas apprendre. Il faut apprendre que le cas de référence, il est limité. Donc c'est difficile de dire que la trahison de Am Israël lors de la faute due à Hegel, elle n'était pas voulue. Alors nous devons en déduire une tshuva globale qui s'applique à tous les cas. Il faut ajouter à cela. Donc ça, c'est encore une question. Il faut ajouter à cela que tout celui qui agit pour le bien du public sera préservé de la faute. Kol, tout celui a marqué dans les Pirkei Avot, kol hamezakeh rabbim, alors en het baleado, aucune faute ne vient entre ses mains, il ne faute pas. Alors voilà que Aaron a Cohen. Qu'est-ce qu'il est dit au sujet de Aaron? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit au sujet de Aaron que Beshalom b'mishor alariti et rabbim ishiv me'avon. Il dit, comme il dit le prophète Malachi, il dit, il s'est engagé devant moi dans les voies de la perfection. Béchalom, c'est la perfection. Béosher, ou Bémichor, dans la droiture. Et Bérabi, Meshiv, Béhavon, et nombreux sont ceux qui se sont corrigés et qui se sont amendés de leurs méfaits grâce à lui. Donc c'est quelqu'un qui est Mézaké Arabi. Alors comment il a pu fauter? Il leur a dit, faites-moi, on va faire un Hegel. Ça, c'est les questions. On va essayer de répondre. Alors, pour répondre à ça, nous allons essayer d'apporter un midrash dans Midrash Bereshit, au début de la création du monde. Rabbi Tanhum, il commente au début du Midrash Rabbah, dans Bereshit, au chapitre 1, au Ot Gimel, et sur le pasuk Bereshit bara Elohim. Il dit comme ça, vezé les chenons. Rabbi Tanhuma patah. Donc Rabbi Tanhuma, il a ouvert son propos. Ki gadol ata ve'orseniflot. Amar Rabbi Tanhuma. Alors il dit, Ki gadol ata, toi, éternel, tu es immense, grand, et tu fais des prodiges. Alors, il fait une comparaison. Il dit, ah non, d'azé, imaya bo, nekev, kehudo, shel mahat, kolocho, c'est même non. Il dit, cette baudruche, cette outre, gonflée, chargée d'air, il suffit d'un trou infime, un petit orifice, et tout de suite, elle perd son air, elle se dégonfle. Alors que l'homme, il est créé d'organes, d'orifices, il est plein d'orifices, comme on dit dans la bracha de Asher Yatzar, halolim, halolim, il est fait d'organes creux, comme qui sont vides à l'intérieur, ils sont liés à de l'air, et il est fait d'orifices. Alors, et malgré tout, il ne perd pas son souffle, sa neshama ne le quitte pas. C'est ça ce que dit le Mikha. Anoda ze imaya bon nekev kehuda shel mahat. Kol rucho yotze mimeno. Ve adam asu mihilim mihilim. Nekavim nekavim. Nekavim nekavim halulim halulim. Ve en rucho yotze mimeno. Alors comment c'est possible? C'est un prodige exceptionnel. Mais à ça, qui est-ce qui fait ça? Ata Elohim levadicha. Toi, éternel, tout seul. T'es unique. Après, Rabbi Tanhom, il pose la question. Il dit, quand est-ce que les anges ont-ils été créés? Alors, il y a un mahaloket, Rabbi Hanan et Rabbi Hanina. Rabbi Hanan, il dit, le deuxième jour. Et sur ça, il apporte un verset. Et Rabbi Hanina a dit, que c'est le cinquième jour. Alors, il dit, comment? Amkare bamaim aliyota, urti vosse melacha bouchot. Ça, c'est l'avis de Rabbi Hanan. Donc, l'eau, elle a été fait, créée le deuxième jour. Donc, les rouhot, ils sont, et melachav, c'est rouhot. Alors, c'est tout ça, c'est de l'eau. Donc, puisque l'eau, elle s'est rassemblée, ikavo, maïm, grâce au vent. Donc, c'est le vent, c'est, allusion, référence aux anges. Donc, ils ont été créés d'après Rabbi Hanan le deuxième jour. Adate, Rabbi Hanina, c'est le cinquième jour. Alors le Midrash, il conclut, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, au premier jour, il n'y avait pas d'ange. « Akol modim ben al-da'ate de Rabbi Hanan, ben al-da'ate de Rabbi Hanina, akol modim shelo nivreu barishon. » Le premier jour, il n'y avait pas d'ange. Il y avait qui? Il n'y avait que Hachem. Chez le Homro, pourquoi? Pour qu'on ne dise pas que les anges, ils sont aussi aidés à cause de la création du monde. Alors le Midrash, il dit, « Michaël aurait tiré les cieux, » et Gabriel, il était au nord, etc. Ils auraient, eux aussi, les anges, participé à la création du monde. Comme il dit le verset, « Et la Anochi, il dit, moi, uniquement moi, on s'école, c'est moi qui ai tout fait, dit Hachem. « Noté shamaim levadi, roka aares meiti. » C'est de moi que la terre s'est formée, s'est établie, le ciel et la terre, c'est moi seul, unique, qui les ai faits. Après, il dit, mi ayashota femi, qui était associé avec moi, mais briato shelolam, qui était personne. Donc, il n'y avait personne. Autre explication, qui gadol ata veosenniflot, tu es unique, grand, et tu fais seul les prodiges. Alors, le Midrash, il donne une parabole. Il dit, tu es grand et prodigieux dans tes actes. Dans ce monde, un roi de chair et de sang, il est glorifié par ses sujets dans tous les recoins du royaume. Mais les ministres aussi, les nobles aussi, ils jouissent et aussi sont célébrés, honorés avec lui. Ça, c'est dans le monde ici-bas. Mais dans les cieux, pour Akadosh Baruch Hu, il est unique. Akadosh Baruch Hu, il est seul à être glorifié. Qui gadolata veoseliflot, lama, qui ata Elohim levadecha, tu es le Dieu seul unique. Ata levadecha barata et aolam. C'est ça ce qui est marqué, bereshit bara Elohim. Adkan lashon amidrash. Ça veut dire que le Midrash veut nous souligner que Akadosh Baruch Hu, il est unique seul, il n'y a rien, il n'y a personne qui s'est associé avec lui dans la création du monde. Ça, c'est le Midrash. La question sous-jacente, soulevée par ce texte, pose de manière claire la problématique des différentes formes du miracle et de l'intervention surnaturelle en ce monde. Je m'explique. Nous avons dit au début que le seul fait que l'homme puisse survivre alors qu'il est fait de trous et d'orifices, et d'autre part qu'il a des organes creux, ça tient du prodige. De plus, Il fait des prodiges dans le monde. Donc, c'est les interventions divines, prodigieuses, miraculeuses. Si on dit que le Midrash dit, il n'y a que Hachem qui fait, est-ce que elles prennent, est-ce que, comment ces interventions se produisent? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient directement pour produire le miracle? Est-ce qu'il utilise des intermédiaires? Qui sont ces intermédiaires? Est-ce que ce sont des anges? Peut-être des prophètes? Peut-être d'autres moyens? Ça, c'est la problématique qui se pose ici dans ce Midrash. Et nous disons dans la Haggadah que Botsianu Hashem Mitzrayim, Ani Velo Malach, Ani Velo Saraf, Ani Velo Shaliach. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, moi, et pas par l'entremise d'un ange. Moi, et pas par l'entremise d'un séraphin, qui est aussi un niveau d'un ange. Moi, et pas un messager. Un messager, ça veut dire Moshe et Aaron, qui sont des prophètes. C'est moi seul, qui est Hachem, ou les Vadon, lui-même, il a agi, Birbodo, Beatson, unique, tout seul, directement. Donc, l'intervention divine, sur le miracle, elle se fait directement par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah. De sorte que toutes les propositions que nous avons posées comme hypothèses sont exclues. Elles sont repoussées. C'est lui direct. Mais nous voyons dans la réalité que Moshe et Aaron aussi sont intervenus. Et que dans certaines situations, c'est les malachim, il a envoyé des malachim pour agir. Donc c'est une réalité ou c'est pas une réalité? Comment ça se passe? Pour répondre à cette question, nous allons comprendre qu'il y a, il faut d'abord savoir que les kadmonim, ils se sont posés le problème. Le Ramban, Rabbi Abba Meir Ben Ezra, le Ralbag, etc., et d'autres. Sefer, il y a un autre Sefer qui s'appelle Derech Emouna, qui ont posé les problèmes, les philosophes de la tradition juive, se sont tous posé le problème, comment Dieu intervient, comment se produisent des miracles, à quel niveau se passe le miracle, etc. On peut trouver ça dans toute la littérature philosophique, dans le Maharal, dans beaucoup de livres. Mais nous allons voir ce qu'en dit notre maître, Rabbi Yitzhak Isaac Haver, alav shalom. Et nous devons savoir que tout ce que les kadmonim ont dit sont vrais. C'est vrai que même s'il y a des avis différents, il y a à comprendre comment et ne pas prendre, choisir une version et pas l'autre, mais toutes sont vraies, elles s'inscrivent toutes dans un concept que nous allons essayer de développer. Alors il nous dit le Rav, Elohim Nedrachim, Betheilat Aberia. Alors pour comprendre ces deux voies, alors il y a deux voies dans la création. Akadosh Baruch Hu, il a fixé au début de la création deux conduites du monde. Il y a celle qui apparaît au moment de la création du monde, Bereshit Bara Elohim. C'est une direction, c'est comme ça qu'il crée le monde. 32 fois apparaît le nom Elohim dans la création du monde. Le mot Elohim, c'est le détenteur de pouvoir, celui qui détient le pouvoir. C'est le moyen que Akadosh Baruch Hu va employer pour créer le monde. Et il y a une autre conduite qui s'applique, qui se manifeste par le nom de Dieu de quatre lettres, Yotke Vavke. Alors il dit, dans toute création, il n'y a rien sur terre qui ne soit pas composé de deux éléments. Il y a, dans toute matière, il y a la matière brute et les lumières qu'elle contienne, que cette matière contienne. Il peut pas y avoir, on a la matière végétale. La matière végétale, elle est une matière, mais elle a une forme. Elle a une âme, elle a une vie, elle a une finalité. Même la matière, l'eau, la matière inerte, le minéral, il a aussi la matière plus les éléments spirituels. C'est ce que les kadmonim ont appelé Homer Betsura. Homer, c'est la matière, Et la tsoura, c'est la forme, qui est l'intelligence qui est insufflée à cette matière, qui va lui donner l'intérêt et sa finalité. Bon, alors, en parallèle de l'homme, c'est le corps et l'âme. Donc la tsoura, la forme, c'est l'intelligence qui est insufflée. Prenons l'exemple, l'artisan qui prend une matière première, c'est de la matière brute. Il va la façonner, il va la travailler, il va lui donner une forme pour que en faire un outil, un ustensile, un objet qui va avoir une utilité. Quelle différence y a-t-il entre la matière brute et la matière transformée en objet? C'est l'intelligence de celui qui façonne et qui transforme. Cette intelligence-là est le souffle de vie qui a été insufflé au corps de l'homme. Vaipah be'apav nishmat hayim, il y a insufflé à l'homme le souffle de vie, de sorte que l'homme est devenu intelligent. Il a eu alors à ce moment-là l'intelligence. La neshama qualifie le souffle divin, qualifie l'homme et le fait, il lui donne la qualité de homme, Adam, parce qu'il ressemble à son créateur de par son intelligence. Donc dans toute la création, tous les éléments, même le minéral comme nous l'avons dit, contient des éléments spirituels qui le font exister. S'il y avait quelque chose, une matière quelconque qui ne contient pas des éléments spirituels en ce monde, elle ne peut exister. Donc même la pierre, le rocher, la matière brute, le métal, tout ce qu'on veut contient des éléments spirituels qui le font exister. Donc il y a Homer et Tsura, et ça dépend des niveaux dans lesquels les niveaux de la création, quatre niveaux de création, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, il y a quatre niveaux spirituels. À chaque niveau correspond une qualité de Tsura, il y a la matière plus la forme, l'intelligence. À chacun son niveau. Mais il ne peut y avoir sur cette terre quelque chose qui n'a pas ces deux aspects, qui n'est pas composé de ces deux facettes. Donc les deux anagotes, revenons aux deux conduites. Il y a une conduite qui concerne la matière, Bereshit, Bara, Elohim, Etachan, Ibaret. Cette conduite-là, c'est la conduite à Teva naturelle, qui concerne l'ensemble du monde, qui est une conduite naturelle selon les règles fixées au moment de la création. Elle concerne le homer, la matérialité. Et il y a une autre conduite qui est celle qui va se dévoiler avec Abraham, qui va prendre toute son ampleur et se dévoiler de manière totale à la sortie d'Égypte à travers la domination, transformation de cette matérialité. Il y aura des miracles. Donc ça concerne le Shem Havaya Baruch Hu et ça concerne la spiritualité, la Neshama. Il y a aussi deux parallèles qui ne se rencontrent jamais. La conduite naturelle, elle est sur un axe, et la conduite surnaturelle, elle est sur un axe parallèle. Ici, les règles de la nature qui concernent l'ensemble de l'humanité d'une part, et les règles qui concernent Am Israël. Ce sont les sciences profanes qui concernent l'ensemble des hommes, de l'humanité, des nations. Et il y a la Chochmat HaTorah qui concerne Am Israël. Les deux ne se touchent pas, ils sont parallèles, continuellement parallèles. Il n'y a aucun lien entre eux. Jamais, il faut savoir, jamais nos maîtres, dans aucun texte, ne parlent de là, quand ils disent, ils dévoilent certaines choses, ils ne parlent jamais des sciences profanes, ils ne parlent que de la Torah. C'est ce que le Hari, Alav HaShalom, il dit dans Etz Haim, au début, il dit qu'il y a deux systèmes parallèles de conduite de ce monde qui sont les Aigulim et les Yosher. C'est la conduite globale, ronde, qui concerne l'ensemble de l'humanité, que nous allons traduire par Ashgaha Klalit, la surveillance globale, et il y a la Ashgaha Pratit, et il y a la surveillance et la direction précise qui concerne chacun. Ça s'applique sur Israël. Il y a le Homer, là aussi il y a Homer et Tsura. Homer et Tsura. Donc les deux conduites concernent les deux facettes de chacun d'entre nous. Et c'est ça que le bet, c'est cela, à cela que fait référence la première lettre de la Torah. Bereshit bara Elohim. Le bet, qui signifie deux facettes. Le Homer et la Tsura. Dans la création, il y a la matière et la forme. La matière et la forme. La matière brute et, d'autre part, les règles des règles de la nature. La nature brute et la spiritualité qu'elle contient. Deux parallèles. C'est ça ce qui a marqué. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Qu'est-ce que vient, nos maîtres disent que chaque fois qu'il y a le mot et, il vient rajouter. Parce qu'on aurait pu très bien dire Bereshit bara Elohim, Hashamayim ve Haaretz. Pourquoi il a marqué à chaque fois et? Il vient inclure. Chez Hashamayim ve Haaretz, em homriim. Les cieux et la terre sont matières. Mais chacun d'entre eux contient la spiritualité. Où elle est marquée? Dans le mot et. Il y a la homer. Hashamayim, c'est le homer, c'est la matière des cieux. Mais et Hashamayim vient inclure la tsubra, la finalité, la spiritualité qui est contenue dans ces cieux. Aharet, c'est la matière. Et Aharet, le et, il vient ajouter la spiritualité. Et de même pour tout, comme nous l'avons dit, pour toutes les créatures, pour toute la création, tout ce qui contient ce monde, tout ce qui est contenu dans ce monde ne peut exister s'il n'a pas ces deux parties, comme cela est mentionné au début de la Torah. Le bet, et le bet en vérité, il est un grand bet, parce que ce sont deux concepts complètement importants, exceptionnels, que nous devons assimiler déjà au départ. Et c'est ce que nous avons dit, le corps et l'âme. Alors, ça c'est l'homme. Ça c'est et l'essentiel de la création est pour l'homme. L'homme, il est celui qui ressemble. Adam, celui qui ressemble à son créateur. Comment? Par sa intelligence. Comment on va définir le créateur, Yitzbarach Shemo? Par l'intelligence, comme il dit Rambam. Maïmonide dit, oh, tu dois savoir qu'il y a un être suprême qui a précédé toute la création. Il est incontournable. Il ne peut y avoir de création sans lui, sans sa présence. Et cet être-là, il faut savoir, il faut l'aimer et il faut le craindre, etc. Alors il dit, comment on va le craindre? Il dit, il suffit de regarder la création, de voir l'intelligence, de savoir la connaissance qu'il y a à travers chaque élément de la création, pour prendre conscience de la grandeur du Créateur et de l'aimer immédiatement. Donc c'est quoi? C'est l'intelligence. Donc l'homme, il est intelligent parce qu'il va de sa propre, la partie spirituelle qui vient du Créateur, qui le contient, c'est son âme, c'est son intelligence. Donc il va à l'intelligence et va dévoiler l'intelligence. Et à ce moment-là, il va se lier l'intelligence de l'homme, qui est une partie de l'intelligence du Créateur, va se lier à sa source. C'est ça le sens de aimer Dieu et de le servir et de le craindre. Maintenant, chaque chose est dans le détail, comme on dit, il n'y a pas, comme ils disent le Midrash, qui n'a pas une herbe ou bien une plante, qui n'a pas un ange qui lui dit grandis. Alors c'est quoi l'ange qui lui dit grandis? En lecha esev. Milimata, en lecha esev milimata, chien lo mala barakia, chien maqué auto, veu merlo gadel. Il lui dit, il n'y a pas un brin d'herbe qui ne pousse s'il a un ange qui lui fait grandir. C'est ça la spiritualité. La partie spirituelle qui fait grandir la partie matérielle. Il en va de même pour l'homme. Au basé à Behina, il n'y a pas de, par rapport à ça, il n'y a pas de différence entre l'homme. Le Ben Adam Ayoter Shalem Ben Sheno Shalem Kolkar, tous les hommes sont de cette qualité-là, que ce soit le plus grand des hommes ou le plus petit des hommes. Que tous, ils ont été créés pour la gloire de Dieu, pour arriver à la gloire de Dieu. Comme il est dit, Kol Pa'al Hashem Le Ma'anehu. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour lui-même, pour sa gloire. Et c'est marqué dans les Pirkei Avot, que le bara que bokhu lo alam kol she bara ma she bara que bokhu be alam tout ce que Dieu a créé dans son monde il l'a fait pour que pour sa gloire ou ba'avoram lisdero kol seva shamim et pour cela pour ces hommes pour tous les systèmes de la création avec toutes les règles de conduite du monde, tous les anges, les astres, les mazalotes, etc. n'ont été créés que pour cette finalité-là. Il n'y a pas d'autre finalité pour le besoin de l'homme. Mais c'est alors les faits ayant la tsura chez Adam. Donc en vérité, la conduite du monde ne dépend que de la finalité spirituelle. Benou, aneshama shebo. L'homme, d'ailleurs, Rabbeinu Haim Vital, dans son fameux livre, Sha'ari Kedusha, il définit au début du premier chapitre, il te dit, sache que l'homme n'est pas son corps. L'homme, c'est son âme. Car, il est dit, je vais t'habiller, al-basar adam lo'issar. Par exemple, par rapport, le verset dit, par rapport à l'huile, d'onction, qu'il faut pas, qu'il s'assure d'utiliser pour tout un chacun, il dit sur la chair d'un homme, elle sera pas oint. Pourquoi sur la chair d'un homme? Sur un homme. Pourquoi la chair d'un homme? Moi, je crois que la chair de l'homme, c'est pas l'homme. L'homme, c'est quelque chose d'autre. Ce qui définit l'homme, c'est son âme. Le corps n'est que l'habit de cette âme-là. Mais c'est à eux les filles aignan atsura chez Adam, d'aïno aneshama chez Bo. Les filles c'est des rabodato, mais korbato et la vie de Baraf. Alors, c'est comment l'homme il va s'approcher de Dieu, il va le servir, parce qu'il a l'intelligence. J'ai mis ça, korbato et la vie atsura aneshama chez Bo, de Boka, Beyotsra. Donc, comme nous l'avons dit, c'est ce qu'il a dit Maïmonide, l'homme il va servir Dieu, alors sa forme, la forme, l'intelligence, elle va s'attacher à l'intelligence. La reine, c'est pour cela, hein, les garmés à chamimim v'yesodam à arès, choum, mavo, l'ifrol, ba'em. C'est pour cela que, celui qui s'engage à servir Dieu selon la tsura, donc il n'est pas sous l'influence des éléments matériels de la conduite de ce monde. Parce que lui, il s'est mis dans un système qui est au-delà de cela. Comme nous l'avons expliqué, ça veut dire que toute la destinée fixée au moment de la création, elle ne concerne que la matière. Mais celui qui s'attache à la spiritualité de l'âme et à la forme, à l'intelligence, qui est l'âme, qui est la spiritualité, alors il est au-dessus, il est au-dessus. Et c'est là le concept même des miracles et des prodiges et des signes. Shinimsaim ba'umma Israël. C'est en cela que tous ces prodiges s'appliquent sur le peuple, sur la nation juive. Uniquement. Velo nimsa bezulata. On va pas entendre qu'il y a une nation quelque part qui a eu des prodiges, que la mer s'est ouverte pour eux, que on leur a donné du pain du ciel, ou bien que on a tapé sur un rocher et le rocher il y a la source qui est apparue, etc. Et c'est pour ça que l'âme Israël, il appelait Adam, comme il est marqué au début de Vaïkra. Il est marqué Adam qui a crié Mikem, Atem Keroim Adam. Vous êtes appelé Adam. Adam, c'est pas l'homme. C'est l'homme dans le sens de la spiritualité. Il n'y a pas ici lieu de dire que les autres hommes ne sont pas des hommes ou des trucs comme ça. C'est un concept qui dit ressembler à Dieu. À travers la conduite spirituelle, totalement spirituelle, qui s'adapte, qui l'intelligence de l'homme s'attache à l'intelligence de Dieu. À travers quoi? Pas à travers des croyances ou bien des théories philosophiques, c'est à travers le dévoilement de la Torah. Ben, Saloma, que cette sourate-là, cette intelligence-là, de l'homme, kol davar anikra alpit surato, l'homme il est appelé, comment on appelle Adam? Adam il est appelé selon la qualité de sa forme, de son intelligence. Mais zehu shekatu bereshit bara Elohim. Ratza lomar al yedei shetei reshit. Il y a deux reshit, bet reshit, deux débuts. Shehu haomer veatsura, qui sont la matière et la spiritualité, la forme. Al yado bara shamayim va'aretz. Tout a été créé avec ces deux facettes, ces deux éléments. Shebazen nichral gam ken haomer ve'atzura shebaem. Sheratza lomar haomer shelaem hu hanagat teva. Ça veut dire il y a une conduite qui est une conduite naturelle qui est qui concerne la matière matérialité. Betzuratam hanagan ici. Ça c'est la conduite naturelle et il y a au-delà de cela une conduite surnaturelle, miraculeuse, qui concerne la spiritualité. Et maintenant, par cette introduction incontournable, vraie, absolue, que nous venons de dire, ne change pas le système en lui. Lui, il est identique à lui-même, le Créateur. Il n'y a pas une transformation qui se passe dans les règles établies au départ. On ne change pas le système. Il y a deux systèmes parallèles. Un, ce qui concerne la matière, et un qui concerne la spiritualité. Mais à Klal Hadavar, à Tsura, chez Begermé Hashemimim, ou Poel Anissim, ou Poel Batsura. Donc il y a des concepts spirituels il y a deux conduites qui vont s'agir, l'un qui concerne son domaine et l'autre son domaine. Afma chez Matsinou, chez les Famim, Naasim, Nissim, elle est des malach. Donc de là on voit que c'est direct. Mais non, parfois on voit que le miracle il se produit par un ange. Comme il y a marqué au sujet de Sanhérif. Il est marqué que Sanhérib, il est venu, il a fait le siège de Jérusalem avec une armée, 1 million de soldats. Et la nuit, alors, Hezkiah Amelech, il a prié, et la nuit, l'ange, là, il est descendu, et il les a tués. Donc, le miracle qui s'est produit là-bas, c'est par un ange. Parfois, c'est par un prophète. Les femmes, Malia, Doit, Barahasson, et des fois, c'est directement par Hachem. Il n'y a pas de changement dans les règles établies par Akadosh Baruch Hu. Et là, Shinouyou, les filles, il y en a. Selon le degré du miracle, alors il y a des moyens qui sont différents. Shim ou anitzrach les affaires yesodot atachnonim levad. Si ça concerne à changer la matière, la matière première de la création sur terre. Et notre affaire les garmages, il a pas besoin de changer les règles qui sont établies dans le ciel. Ah ça se passe avec un prophète qui grand Nes Elisha. Nes Elisha ben Naaman. Il est venu, il était lépreux, Elisha, il lui dit, va te tremper dans les eaux qui sont quelconques du Jourdain et tu guériras. Donc en réalité, il n'avait pas besoin de faire des changements miraculeux en dehors. Parce qu'il lui a dit, lave-toi, trempe-toi et tu guériras. Et Kacher Utsrara d'avoir les affaires, Gam Garmé Hachamé Bekislé. Mais quand il va falloir changer les règles des cieux, ce qui a établi dans les Mazalot, le miracle qui se fait par l'ange, chez Ukoho, parce que la force de l'ange, elle est plus que la force du prophète. Beru Atsura Yoter Eliona. Et lui, c'est une intelligence, une puissance spirituelle beaucoup plus forte. Mais Kacher Tsarir Gam l'affaire Sidur Garmi Behomri Anivre Maïloni. Et quand il faut changer même les puissances des cieux, alors c'est directement Akadosh Baruch Hu qui va agir. Et c'est pour cela que, ולכן נס מכת בכורות היה על ידי השם יתברך בעצמו. C'est pour ça que la מכת בכורות, la mort des premiers nés, s'est fait directement par l'intervention de Dieu directement. Parce que, qui as, nous dit le Rav, היה עונש גם בצבא מעלה. Il n'a pas uniquement puni les individus sur terre, il a puni le concept même de l'Égypte, l'ange, l'archange, le système qui est établi de l'Égypte dans les cieux. Comme il est dit, Ubechol Elohim Mitzrayim et Sechevati. Je ferai des prodiges même sur tous les dieux d'Égypte. C'est quoi les dieux d'Égypte? Ce sont les anges, les archanges, les défenseurs spirituels de l'Égypte qui se trouvent dans les cieux. Il les a brisés. Il a brisé leur puissance. Ça, ça ne pouvait se produire autrement que par une intervention directe. Parce que c'est lui qui donne à cette forme-là leur force, leur puissance. ולכן הוא העושה לפי הצורה שבכולם. Donc cette intervention, elle agit selon les niveaux, l'intermédiaire, il concerne le niveau d'application du miracle. Il y a une application qui est en bas, il y a une application qui est un peu plus puissante, il y a une application qui est au-dessus. Ou Bazeid Berma Maram, c'est ce que la Gemara a dit dans Gemara de Sanhedrin, au sujet de Sanhériv. Il dit comment Dieu il a frappé. Rabbi Eliezer Omer Beyad Ikam, il a frappé avec la main. Comme il est dit chez Nehemia, Vayar Israël et Tayad Agedola, à la sortie d'Égypte, traversée de la mer, marqué Israël a vu la main puissante. Yiyayad Tiratida Lipara Mesanri, il nous dit, Rabbi Eliezer, c'est cette main-là qui va punir, qui va faire payer à Sanhérif plus tard. Rabbi Yoshua, il dit, Be'etzba Ikam, il les a frappés avec le doigt. Chenema va yomro hartomim el paron etzba Elohim hi. Les sorciers ont dit à Pharaon, c'est le doigt de l'Éternel. Il etzba, alors il dit Rabbi Yoshua, c'est ce doigt-là qui frappera Sanhérif beaucoup plus tard. Alors il dit, ces paroles-là nécessitent un commentaire. Quelle différence il y a entre la main et le doigt? Alors nous allons expliquer. Selon ce que nous avons expliqué. Quelle est la qualité de ce miracle? Est-ce que ce miracle-là se produit directement par Dieu? Alors, sans intervention d'un ange. Parce qu'il devait soumettre l'ange de l'Égypte, l'archange de l'Égypte. Zenikrayat, ça s'appelle la main, Yad. Aifresh ben Yad ou ben Esbahu. Pas quelle différence il y a entre une main et le doigt. Il dit qu'il y a doigt kolel, parce que la main, elle englobe tous les pouvoirs qu'il y a dans les 14 phalanges. C'est un concept global qui englobe, qui maîtrise, qui rassemble les forces. Que toutes les actions de la main sont rassemblées dans la main. Il n'y a pas d'action indépendante. Mais si je parle de doigt, d'index, alors il s'agit d'une force spécifique, détaillée, individuelle. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux sujets. Si je dis que la sanction qui s'abat sur Sanhérib, elle se fait par Akadosh Baruch Hu directement. Alors, c'est pour ça que j'utilise le mot de Yad. Shehuit Barach, Abbaal Ayacholet, c'est lui qui concentre tout, qui maîtrise toutes les possibilités des forces. Oh, Imaya Yadé, Emsaï, ou bien peut-être que ça s'est passé par un intermédiaire, un ange. Et Nikra, alors ça s'appelle Etzba Elohim. Quand il y a Etzba, c'est un ange. Quand c'est la main, c'est Dieu direct. Mais au Kowar Prati, c'est une force spécifique. D'ailleurs, les anges, ils ont une mission à remplir. Leur nom concerne la mission qu'ils ont à remplir. Alors, pourquoi il y a marqué dans le verset là-bas, dans les rois, que l'ange de Dieu est sorti et a frappé le camp des Assyriens? Au Malach Abberit, il dit, ça c'est pas, c'est l'ange de l'Alliance. Chez où, Ashechina Be'atzma. Cet ange-là, c'est la Shekhina elle-même, qui concentre toutes les forces. Comme le dit le Rambam, Anochi Sholeach Malach sur Bamidbar, sur Parashat Mishpatim, a marqué, voilà, j'envoie un ange devant toi. C'est qui cet ange-là? C'est la Shekhina elle-même, qui concentre tous les pouvoirs. Et avec ça, donc, nous avons, si on peut conclure la première partie de notre intervention, c'est qu'il y a deux facettes dans la conduite de ce monde, deux conduites, une qui concerne la matérialité, une qui concerne la spiritualité, une conduite naturelle, une conduite miraculeuse, et la conduite miraculeuse se transforme à trois niveaux, comme nous l'avons vu dans la Haggadah, trois niveaux d'intervention, plus ou moins élevés. Et le niveau le plus haut, ça va se faire par Dieu lui-même, parce qu'il va intervenir aussi dans les sphères supérieures, comme il va frapper l'Égypte. Alors ça, on va dire, c'est ça la différence qu'il y a entre la main, Yad Hashem, et Etzba, et le doigt. Dans un cas, c'est l'intervention de celui qui maîtrise toutes les puissances et les pouvoirs. Dans l'autre, c'est une intervention sur un point spécifique. Et ça se fait par un intermédiaire, un ange en l'occurrence. Nous concluons ici la première partie de ce développement. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.